Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, report du procès d'une vingtaine de militants de la société civile au Niger. Le président français Emmanuel Macron est en visite au Nigeria. Les législatives ont été reportées au Cameroun. Souad Abderrahmane du parti Ennahda devient la première femme maire de Tunis. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Ce soir dans l'actualité africaine, au Niger, le procès d'une vingtaine de militants de la société civile nigérienne a été reporté au 10 juillet. Ces militants sont détenus depuis mars après une manifestation interdite. Eric Manirakiza.
Le procès des militants de la société civile prévu ce mardi 3 juillet est renvoyé au mardi 10 juillet, a affirmé un des responsables des ONG. Les raisons du report ne sont pas précisées. Les détenus, écroués dans des prisons, n'ont pas été acheminés au palais de justice de Niamey. Les 26 prévenus, dont des figures de la société civile, ont été pour la plupart arrêtés le 25 mars. C'était à la suite de heurts entre les forces de l'ordre et des manifestants qui voulaient braver une interdiction de manifester contre la loi de finances 2018 qu'ils jugent antisociale. D'après leurs avocats, ils sont poursuivis pour organisation et participation à une marche interdite et complicité de dégradation de biens publics et privés. Amnesty International a appelé à leur libération immédiate et sans condition.
Au Burkina Faso, la justice a condamné Naïm Touré à 2 mois de prison ferme pour incitation à la révolte pour avoir publié un post incitant les forces de défense et de sécurité à manifester contre de mauvais traitements. Le point avec Bagassikoura.
Arrêté le 14 juin et incarcéré depuis à Ouagadougou, Naïm Touré était poursuivi pour, je cite, « participation à une entreprise de démoralisation des forces de défense et de sécurité, incitation à des troubles à l'ordre public et proposition aux forces de défense et de sécurité de former un complot contre la sûreté de l'État ». Le tribunal de grande instance de Ouagadougou, devant lequel a comparu le prévenu, abandonné 2 de ses charges, mais l'a reconnu coupable d'incitation à la révolte et condamné à 2 mois de prison ferme. On a été surpris parce qu'à l'audience, nous avons démontré à suffisance qu'il n'y avait pas d'infraction. Je ne suis pas content de cette décision et nous allons faire appel, a déclaré son avocat Maître Roger Yamba. Le 13 juin, le jeune homme avait publié sur sa page Facebook un pamphlet contre le pouvoir et les forces de l'ordre, dénonçant le manque de diligence dans l'évacuation sanitaire d'un élément de l'unité spéciale de la gendarmerie blessé par balle lors d'une opération antiterroriste à Ouagadougou. Naïm Touré avait déjà été condamné en 2017 pour injure.
Toujours au Nigeria, le président Muhammadu Buhari subit de plus en plus de pression pour limoger les responsables de la sécurité du pays face à la montée des violences qui ont fait près de 2000 morts depuis le début de l'année. Malgré des progrès réalisés contre Boko Haram dans le nord-est du pays, des troubles se sont intensifiés ailleurs, notamment dans le centre, avec la résurgence d'affrontements intercommunautaires meurtriers entre agriculteurs et éleveurs, une hausse des kidnappings contre rançon ou des faits de banditisme. En Guinée équatoriale, 5 partis et mouvements politiques d'opposition en exil se sont déclarés prêts à participer au dialogue politique convoqué mi-juillet par le pouvoir si leur protection et leur sécurité sont garanties par la communauté internationale. Au Soudan du Sud, le gouvernement a présenté au Parlement une loi prolongeant de 3 ans le mandat des autorités de transition, dont celui du président Salva Kiir, au moment même où gouvernement et rebelles sont engagés dans des pourparlers de paix. La police zimbabwéenne a arrêté 2 personnes soupçonnées d'être liées à l'attentat à la grenade qui a visé le président Emmerson Mnangagwa il y a une dizaine de jours. Le président n'avait pas été blessé, mais 2 de ses gardes du corps avaient été tués. Aucun détail sur l'identité ou les faits reprochés aux 2 suspects n'a été communiqué. En Tunisie, Souad Abderrahmane, tête de liste du parti islamiste Ennahda lors des récentes élections municipales, Souad Abderrahmane devient la première femme maire de Tunis. Plus de détails avec Raïssa Girondin. Alors, je pense que nous écouterons cette bande un petit peu plus tard. Direction le Nigeria, le président français Emmanuel Macron est en visite donc dans ce pays aujourd'hui après avoir assisté au sommet de l'Union africaine en Mauritanie. Il a rencontré le président Muhammadu Buhari à Abuja avant de se rendre à Lagos où il visitera notamment le Shrine, cet ancien sanctuaire de la légende de la musique nigériane de Fela Anikulapokuti. Depuis Abuja, la correspondance de Gilbert Tamba.
Le président français effectue une visite en trois dimensions, politique, économique et culturelle. Pour le président français, le Nigeria représente d'abord un choix actif. Il y a effectué son stage il y a 15 ans auprès de l'ambassade de France au Nigeria. Le Nigeria représente aussi un choix politique au vu du poids du président Muhammadu Buhari en Afrique de l'Ouest. Les deux chefs d'État discutent non seulement de la lutte contre Boko Haram, mais aussi de la situation de sécurité dans la région du Sahel. Muhammadu Buhari a été un acteur essentiel de la force d'action africaine contre Boko Haram avec des résultats, a déclaré le président français à son arrivée. En plus, au-delà de sa visite à haute portée symbolique, au mythique club phare de Fela Kuti, le président français veut rapprocher la France des pays anglophones et du Nigeria en particulier. Le Nigeria qui représente un grand centre d'affaires avec une population qui atteint aujourd'hui les 200 millions. Emmanuel Macron, qui est également le premier président à visiter le sanctuaire de Fela Kuti, est le premier président français à se rendre à Lagos, la première mégapole d'Afrique. Accompagné des musiciens sénégalais Youssouf Ndour et béninoise Angélique Kidjo, Emmanuel Macron lancera l'organisation de la saison des cultures africaines qui se tiendra en France en 2020.
Et voilà, et nous repartons donc en Tunisie, où Souad Abderrahim est devenue la première femme à devenir maire de Tunis. Nous écoutons Raïssa Gironde.
Souad Abderrahim, la candidate du parti Ennahda, mais qui se définit comme indépendante, a été élue maire de Tunis. Avec 26 voix contre 22 pour son principal adversaire, Kamel Idir, elle a été élue lors d'un deuxième tour boycotté par certains élus de gauche et du centre, se refusant de voter pour l'un ou l'autre des deux partis hégémoniques, Ennahda et Nida. L'événement est qualifié d'historique car c'est la première fois qu'une femme est à la tête de la capitale d'un pays arabe. J'offre cette victoire à toutes les femmes de mon pays, à toute la jeunesse et à la Tunisie, a lancé cette gérante d'une entreprise pharmaceutique. Le premier dossier, ce sera l'amélioration de l'esthétique de Tunis, a-t-elle ajouté. La capitale tunisienne est en effet confrontée à un problème de gestion des déchets qui s'est empiré après la révolution de 2011, qualifiée de berceau du printemps arabe.
Au Maroc, les autorités ont interpellé depuis fin juin 16 nouvelles personnes dans la région du Rif après des tensions liées à la condamnation le 26 juin dernier des meneurs du mouvement du Irak. Une condamnation à des peines comprises entre 1 et 20 ans de prison. Ces jugements avaient suscité des réactions d'incompréhension et d'indignation dans le royaume.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, des incendies continuent à ravager certaines parties de la Californie, attisées par la forte chaleur et des vents violents dans une région déjà durement touchée par le feu cet hiver. Plus de 2000 pompiers combattent ce gigantesque incendie qui s'est déclaré samedi dans le comté de Yolo avant de s'étendre au comté voisin de Napa. Des ordres d'évacuation ont été donnés pour les zones à risque. Le président iranien Hassan Rouhani a qualifié aujourd'hui de pure imagination l'annonce par les États-Unis qu'ils allaient empêcher l'Iran d'exporter son pétrole. Hassan Rouhani a dénoncé, selon ses termes, les sanctions aveugles américaines comme la pire violation des droits de l'homme depuis le retrait en mai de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015. Les États-Unis ont annoncé le rétablissement de sanctions contre l'Iran et veulent notamment réduire à zéro ses revenus tirés de ses ventes de pétrole brut. En Indonésie, au moins 16 personnes, dont 2 enfants, ont péri dans le naufrage d'un ferry qui a coulé au large des côtes. Sur les 139 passagers enregistrés, seulement 39 survivants ont été retrouvés. Cet accident intervient le même jour que l'annonce de la fin des recherches de 164 autres personnes disparues après qu'un autre ferry ait coulé la semaine dernière sur l'île de Sumatra. de suite, le journal de la Coupe du Monde présenté par Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. On parle du match qui se joue en ce moment, Colombie-Angleterre. Il reste à peu près 15 minutes de jeu et pour le moment ce sont les Anglais qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Un pénalty transformé par l'inévitable meilleur buteur de cette Coupe du Monde, Kane. Pour le moment donc les Anglais qui sont qualifiés. On rappelle que côté colombien, James Rodriguez ne joue pas, il est même dans les tribunes suite à sa blessure contracté contre le Sénégal. Dans le premier match de la journée, ce fut très ennuyeux puisque la Suède a battu 1-0 la Suisse sur un but de Forsberg. C'est la première qualification depuis 1994 pour les quarts de finale pour les Suédois. On voit ça avec l'envoyé spécial de VOA Afrique en Russie, Amdinsi.
Il a fallu attendre la 66e minute pour voir les Suédois concrétiser leur domination par l'intermédiaire de Foster, auteur de son premier but dans ce mondial après trois prestations quelconques, bien servi par Toivonen, l'attaquant des Vikings, a trompé la vigilance du portier suisse d'une frappe du droit qui a été déviée. Les Suédois avaient même la possibilité de doubler la mise dans le temps additionnel sur un corner éclair. Orson qui filait au but a été bousculé par l'angle. L'arbitre désigne le point de pénalty et expulse le défenseur suisse avant de revenir sur sa décision. À la place d'un pénalty, il siffle un coup franc après avoir consulté la vidéo, encore la VAR. Mais la messe était déjà dite car les Suédois vont disputer les quarts de finale pour la première fois depuis 1994. Amédine Si, Moscou, VOA Afrique.
Retour à présent sur le scénario incroyable. Hier à Rostov pour les Diables Rouges, mené 2-0 par le Japon à la surprise générale. La Belgique a effectué un superbe retour pour arracher son billet pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Une victoire 3-2. C'est la Belgique qui avait fortement dominé la première période sans concrétiser. Après la pause, basculement sur un contre, Haraguchi ouvre le score pour les Nippons, suivi par Inui qui double la mise quelques minutes plus tard. Puis Vertonghen a sonné la charge pour les Belges. Il réduit le score avant que Fellaini n'égalise. On joue alors la 74e minute de jeu. Le dernier quart d'heure est fou. Et c'est Nasser Chadli qui inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu pour les Belges. 3-2. Cette victoire permet à la Belgique d'affronter en quart de finale le Brésil. Le Brésil qui s'est imposé 2-0 face au Mexique sur des buts de Neymar et Firmino. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouy.
Bonsoir. Lorsque le Brésil retrouve la stratégie qui le fait gagner depuis 1994, les supporters se mettent à rêver d'une sixième couronne. En effet, cette stratégie gagnante se précise plus clairement avec l'amélioration du dispositif rechoisi au début de la compétition. Lors du match Brésil-Mexique, le sélectionneur a réajusté à juste titre la position offensive de ses joueurs, d'où la pagaille que le virevoltant William a provoqué en occupant une position axiale de remonteur de balle, rendant plus fluide l'animation du jeu d'attaque de Carioca. Et quand on sait que, depuis le raté de la génération romantique de Carioca en 1990, le Brésil a fait le choix de la solidité défensive, de l'opacité du bloc et du rendement maximum à l'individuel comme en attaque placée, de super attaquants poussés à l'avant. Les résultats ont suivi. Pour la victoire de 1994, c'est le duo Romario Bebeto qui faisait la différence en attaque, tandis que le capitaine Dunga cadenassait au milieu, un bloc défensif hermétique où s'échappait souvent sur la droite, un centreur intelligent nommé Cafu. En 2002, le même schéma était servi. Gilberto Fermant au milieu et le trio d'attaque Ronaldo, Rivaldo et Ronaldinho était inarrêtable. Toujours appuyé sur sa droite par Cafu, devenu capitaine. Le Brésil reprenait son bien. Si la rareté des talents, le même volume à l'avant explique en partie les éclipses de 2006 à 2014, le cri actuel va profiter de la présence d'un joueur hors norme, Neymar Junior, pour tenter de faire le coup de 1994 et 2002. La rencontre contre le Mexique a donc installé le pays de Pelé dans le fauteuil de super favori actuel et à la France, à l'Uruguay, à la Belgique ou d'autres de lui rappeler la tendance anti-star de cette Coupe du Monde. À bientôt.
Merci beaucoup Jules Valentin. On rappelle le score, Colombie 0, Angleterre 1 but, aucun match demain ni jeudi. Les prochains matchs ce seront les quarts de finale, Argentine-France et Belgique-Brésil de ce vendredi. Voilà, c'est la fin de ce journal de la Coupe du Monde, Claire.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Fin du sommet de l'Union africaine en Mauritanie. Les dirigeants de l'organisation panafricaine ont discuté des questions de sécurité liées aux crises sur le continent, de la zone de libre-échange continentale et ont soutenu la candidature du Rwanda pour diriger la francophonie. Ce sommet de Nouakchott a été aussi marqué par la présence du président français Emmanuel Macron qui s'est entretenu avec les dirigeants de la force conjointe du G5 Sahel. Pour un commentaire, Eric Manirakiza a joint à Dakar l'économiste et analyste politique auprès de Wati, Gilles Olakunle-Yabi.
C'est un sommet traditionnel de l'Union africaine, donc il ne faut jamais s'attendre à ce qu'il y ait des décisions nécessairement importantes, fermes sur des sujets précis à la suite de ces grandes rencontres.
Il y a la question de la force G5 Sahel. On est très loin de rendre opérationnelle cette force.
Là, il semble que des discussions aient été, disons, assez précises et que, par exemple, il y aura un changement au niveau du commandement de la force en tirant des leçons, notamment du dernier attentat contre le QG de la force au Mali. Donc, il y a quand même une volonté forte de mettre en place cette force et pour cela, il faut bien sûr pouvoir régler la question du financement et ça ne se règle pas seulement à travers une multiplication de réunions. Je crois qu'effectivement, on est loin de voir cette force en train de réaliser, disons, des opérations sur le terrain avec succès. Mais je crois aussi que l'objectif n'est pas nécessairement de remplacer Barkhane à court ou même à moyen terme. Je crois que l'objectif est d'avoir une force G5 Sahel outillée pour la lutte contre les groupes terroristes, mais cela ne va pas nécessairement induire un départ de la force Barkhane qui a évidemment des capacités plus importantes et qui opère sur un territoire beaucoup plus large que le fera le G7.
Le président nigérien a parlé d'un combat militaire à court terme, mais un combat économique et social qui doit être essentiel en développement économique.
Tout le monde, maintenant, même les militaires, répète à l'envi que la réponse militaire ne suffira pas à moyen terme à créer les conditions d'une sécurité dans le Sahel. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut des réponses économiques, mais je dirais qu'il faut également des réponses publiques et des réponses sous forme de changements importants dans la gouvernance de l'État. Je crois que c'est sur ce terrain-là qu'il y a beaucoup moins de discussions et peut-être beaucoup moins d'ambition.
Il y a cette zone de libre-échange. On est loin du compte des 22 pour que ce traité puisse entrer en vigueur. Pourquoi, selon vous, les pays africains ne s'oppressent pas?
Dans le cas de ce traité de libre-échange continental, il n'y a peut-être aussi pas vraiment eu suffisamment de discussions, y compris au niveau des États, entre les différents acteurs de la société, les acteurs économiques. Il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui comprennent dans les pays africains de quoi il s'agit, quels sont les bénéfices attendus de ce traité de libre-échange et, par exemple, en quoi est-ce que ce traité dont se superpose ou rend caduque un certain nombre d'accords au niveau des communautés économiques régionales, par exemple.
C'était l'économiste et analyste politique Gilles Olakunle-Yabi à Dakar, au Sénégal.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, la région cotonnière de Kourouma, dans le Kénédougou, refuse la culture du coton. Tombée en impayé de 150 millions de francs CFA, la région exige de l'industrie textile l'annulation de cette dette. Elle estime que les intrants livrés durant la campagne écoulée n'étaient pas de bonne qualité. Plus de détails avec Aïdou Ouédraogo.
Située à 75 km de Bobo Dioulasso dans la province du Kérédougou, la région cotonnière de Kourouma avec ses 9 départements représente 10% de la zone Sofitex, soit une capacité de production de 70 000 tonnes l'an. La raison de la fronde selon les paysans est que la Sofitex refuse d'assumer les conséquences de ses mauvais intrants de la campagne passée.
J'ai fait 5 hectares. En fin de compte, j'ai eu 2 tonnes et demie. Alors les années passées, les 5 hectares, j'ai gagné un peu plus de 4 tonnes et demie.
L'an passé, j'avais cultivé 18 hectares. Et en ça, j'ai trouvé 9 tonnes 600. D'habitude, moi, je gagne 1 tonne 600 par hectare. Je pouvais même arriver jusqu'à 30 tonnes.
Moi, j'étais fait au moins 12 hectares. Et puis, j'ai eu 19 tonnes. La fois passée, j'ai fait 24 hectares. Puis, j'ai eu 20 tonnes seulement. Je devrais gagner au moins 40 tonnes. J'avais payé un tracteur pour me débrouiller. Puis, j'ai vendu aussi pour débrouiller mes enfants qui sont en école. Il y a 9 enfants avec moi dans l'école. La fois passée, là, moi, j'ai fait coton jusqu'à 24 hectares. Je n'ai rien gagné. Cette année, je veux faire céréales 15 hectares. Je ne peux pas me laisser comme ça.
Pour eux, pas de raison de s'endetter encore cette année.
Mon impayé, ça a élevé à 3 600 000. J'ai vendu mon coton, j'ai eu 2 millions et quelques rentes produits. Je n'ai pas continué à m'endetter.
Moi, j'ai eu d'impayé 400 000 sur les 5 hectares. J'ai eu que 2 tonnes 500. Tout le monde a perdu. Et j'ai cultivé mon céréal. J'ai cultivé déjà 3 hectares et demi de maïs. Et je me prépare pour le mil, le sorgho et autres. J'ai prévu 3 hectares aussi pour le mil.
Alors, personne de la région ne fera le coton, car nous avons fait du gris-gris, nous dit Issa Traoré, producteur et chef de terre de Kourouma.
Les chefs de terre ont fait les gris-gris en fait pour ça. En celui qui trouve le coton, il y aura quelque chose de mal.
Pour retourner au coton, on pose maintenant d'autres conditions. Pascal Traoré, la cinquantaine dépassée, est dans son nouveau champ de céréales.
Pour reprendre le coton dans la région de Norolala, on a sollicité les OGM. Bien avant les OGM, on les a cultivés. Si on pouvait ramener ces OGM, parce que les OGM, là, ils sont très pratiques et puis les vers n'arrivent pas à atteindre cela.
Ali Douedraogo, des retours de la région cotonnière de Kourouma pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Brazzaville, la capitale congolaise, vient d'abriter un salon consacré au panafricain. Plusieurs créateurs de mode et des revendeurs de pagne ont proposé de nouveaux motifs aux femmes qui ont pris d'assaut les stands. De Brazzaville, le point avec Arsène Sévrin.
Quelques stylistes et commerçants sont venus célébrer le pagne africain. Le salon de Brazzaville a permis des discussions sur les nouveaux modèles de pagne, mais aussi d'installer des stands de qualité. Pour la styliste commerçante brazzavilloise Solange, le pagne est une signature de la femme africaine.
Et le pagne, ça sert à beaucoup de choses. On le porte. On peut aussi porter un enfant avec. On s'en sert comme drap pour se couvrir, pour mettre sur le matelas. C'est très symbolique en tout cas. Pendant le mariage ici au Congo, on demande toujours les pagnes. Et souvent, les femmes aussi sont habillées en pagne pour leur dot, le mariage traditionnel. Vraiment, le pagne, c'est le chouchou de la femme africaine.
Venue de Bamako, Kadidia Traoré a partagé l'expérience du bassin malien.
J'ai des jolis modèles, j'ai des robes, j'ai des ensembles, les ensembles qu'on peut porter la nuit pour faire les soirées. Le salon, quand même, moi, j'ai trouvé que vraiment ça va. Parce que c'est la première fois qu'on valorise le pagne africain à Brazzaville. Je trouve que c'est vraiment important. Si ça peut continuer au fur et à mesure, c'est bien.
Paulette Sarah Akpo, ivoirienne, est une habituée des marchés africains du pagne. À Abidjan ou à Cotonou, elle propose ses propres créations du pagne africain.
En fait, c'est la soie, mais on a imprimé les motifs africains là-dedans. Les motifs du pagne, du wax. C'est nous-mêmes qui le faisons. On les a en fraîche, en soie et puis en plissé. Mais bon, ça va, on s'en sort. L'initiative, elle est très bonne. On a fait des rencontres et tout.
Mais le pagne n'est pas que l'affaire des femmes. Déo, vendeur de pagne au marché Poto-Poto de Brazzaville, explique sa présence à ce salon.
Juste parce que j'ai une boutique de pagne chez Maca. C'est pour ça que je suis venu exposer mes futurs deux temps. Hyper nouveau. Il y a les Java, il y a les dentelles, puis ma création des deux temps, très appréciée.
Loin d'un simple vêtement, une artisane basée à Pointe-Noire utilise avec beaucoup de finesse le pagne comme accessoire dans l'ameublement des maisons.
En fait, moi, ce qui m'attire, c'est la couleur du pagne, la matière. Moi, je voudrais que le pagne soit représenté différemment que sur un vêtement. Donc, le fait en meuble, en tabouret, en pochette, parce que c'est une originalité, une créativité. Ils sont très intéressés. Je suis basée à Pointe-Noire. J'ai mes artisans, menuiserie, soudeur, couturier et potier.
Organisée par Pamela Okemba, la première édition du Salon de Pagne à Brazzaville a visé la revalorisation du pagne africain. La femme s'identifie par le port de son pagne, a-t-elle conclu.
Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h sur Universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités ou des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook, tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Sims Loumami. À la console, Mireille Dubinsky. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Et notre page Facebook, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le 12 mars, le premier ministre de la Santé et d'Hygiène publique de Côte d'Ivoire a organisé à Abidjan la réunion initiale sur la première étude nationale sur l'impact du sida qui a porté sur plus de 20 000 personnes à ce jour. L'étude appelée « Évaluation de l'impact du sida sur la population de Côte d'Ivoire » ou CIFIA a pour objectif de tester un échantillon représentatif de la population ivoirienne pour ensuite utiliser des modèles statistiques afin de mesurer le niveau actuel de la pandémie du sida en Côte d'Ivoire. Le projet CIFIA est financé par le plan d'urgence du président américain pour l'aide contre le sida, le PEPFAR. La Côte d'Ivoire fait partie des 13 pays en passe de contrôler l'épidémie du sida d'ici 2020 grâce à la récente stratégie d'accélération du PEPFAR. La réunion du comité d'organisation du projet CIFIA a fourni des directives stratégiques ainsi qu'une supervision de l'étude ayant commencé en août 2017. Jusqu'ici, environ 11 000 ménages y ont participé et ont donné leur échantillon de sang. Les résultats préalables du CIFIA sont attendus pour décembre 2018. Selon Catherine Bracker, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, ces estimations sont des projets complexes et j'applaudis le haut niveau d'engagement des tant d'intervenants dans ce projet. Des représentants du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies ont assisté à la réunion, à l'invitation du Dr Raymond Goudou-Goffi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est elle qui préside le comité et a été représentée par son directeur de cabinet. Lors de cette réunion, le Dr G. Laïssa Ouedraogo, directrice pays du CDC, a expliqué qu'une fois achevé, le projet CIFIA aidera la Côte d'Ivoire à mieux cibler sa prévention et ses efforts de traitement du sida. Celle-ci a également loué le ministère pour son leadership et son expertise. Les représentants de l'Institut national des statistiques ainsi que l'Organisation mondiale de la santé ont également intervenu au début de la rencontre. Le Lesotho, le Malawi, le Swaziland, l'Ouganda, la Zambie ainsi que le Zimbabwe ont mené à bien des évaluations similaires de l'impact du VIH sur la population au cours des 18 derniers mois soutenus par le PEPFAR. Le CDC et d'autres participants tels que l'ICAP de l'Université de Columbia aident aussi le gouvernement avec ses études. Et selon la chargée d'affaires Bracker, les États-Unis et la Côte d'Ivoire ont un partenariat très ancien en termes de santé publique datant de plus de 30 ans. Nous sommes conscients que des bonnes données scientifiques sont essentielles pour parvenir au contrôle de l'épidémie de SIDA-VIH. Je suis donc réconforté par ces discussions productives sur l'utilité des résultats du projet CIFIA.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.